La marche du monde.
Ici, les morts sont debout et ils marchent. Ils n'ont pas de parole, mais leurs plaies et leurs os parlent pour eux. Ils parlent des cités de la mort lente. Ils affirment que tous ces camps n'ont eu qu'un but, l'extermination, et que s'ils offrent une différence, elle n'est que dans le nombre des victimes.
1945, les Alliés libèrent l'Europe et découvrent les camps de concentration au fil de leur progression. Et le 27 janvier, les Soviétiques entrent dans Auschwitz alors qu'ils n'ont aucune connaissance de l'existence du système concentrationnaire.
J'ai compris que c'était des prisonniers et pas des travailleurs. Alors je leur ai crié « Vous êtes libres, sortez !» Et là, ils se sont tous précipités vers nous. Ils se jetaient dans nos bras en pleurant. Ils nous embrassaient.
On a couru vers eux et ils nous ont serrés dans leurs bras. Ils nous ont donné des gâteaux et du chocolat. On était tellement abandonnés que le simple fait qu'ils nous prennent dans leurs bras, ça remplaçait toute l'affection qui nous avait tant manqué. On n'était pas seulement affamés de nourriture, on avait faim de chaleur humaine. Et ça, les soldats soviétiques ont su nous en donner un peu.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Le 27 janvier est devenu la journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, car le 27 janvier 1945, c'était la libération d'Auschwitz. Mais à l'époque, peut-on parler de libération? C'est la première question que j'adresse à mon invitée Annette Wiewiórka, directrice émérite au CNRS, spécialiste de la mémoire de la Shoah. Bonjour Annette Wiewiórka.
Bonjour.
Comment pourriez-vous qualifier ce qui se passe le 27 janvier 1945 ?
Ce qui se passe le 27 janvier 1945 et qui sera réitéré à l'Ouest au mois d'avril, ce n'est pas tant une libération qu'une ouverture de ces camps. Pourquoi je préfère le terme « ouverture » ? C'est parce que les camps, aussi bien les camps de concentration que les lieux qui étaient dévolus à l'assassinat des Juifs n'ont constitué un but de guerre pour aucun des alliés, que ce soit l'allié soviétique ou les alliés anglo-américains.
Alors justement, on aimerait comprendre pour quelles raisons ces états-majors soviétiques et alliés n'ont-ils pas donné d'ordre à leurs soldats, ou au moins ne les ont-ils pas informés alors qu'il semble qu'ils connaissaient l'existence des camps de concentration, alors qu'ils connaissaient l'existence des camps d'extermination?
Parce que je crois que pour tous ces alliés, le but, c'était de gagner la guerre. Et que tout ce qui devait détourner de l'énergie de ces combats, c'était quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Et que les armées, les soldats, les officiers, les généraux même, n'étaient pas informés qu'il y avait des camps sur la route de la libération du nazisme du continent européen. Et le général Petrenko, qui a écrit ses mémoires, publié il y a, je sais pas, 10 ou 15 ans, enfin, relativement récemment, dit qu'il n'avait jamais entendu parler des camps d'Auschwitz, et que, alors qu'il a été professeur à l'Académie militaire Frunze, eh bien, on n'a pas parlé de ces camps après. Donc, le cas soviétique est un cas un peu particulier, dans la mesure où on ne peut pas parler d'Auschwitz sans évoquer dans le même temps le sort qui a été celui des Juifs en Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, et ne pas évoquer aussi l'idée, l'imaginaire soviétique de ce qu'était un prisonnier. Donc, quand les soviétiques prisonniers de guerre rentrent, ils vont directement dans les camps du goulag, parce que être prisonnier, c'est une marque d'infamie, ça veut dire qu'on ne s'est pas battu jusqu'au bout. Je crois que c'est la raison pour laquelle les soviétiques n'ont pas, pour employer des termes tout à fait anachroniques, médiatisé la découverte d'Auschwitz. Ce 27 janvier, qui est pour nous un événement depuis une dizaine d'années seulement, une journée de commémoration, c'est un non-événement militaire et c'est un non-événement tout court, parce que sans les médias, il n'y a pas d'événement.
En ce qui concerne les survivants d'Auschwitz, comment eux réagissent à l'arrivée des Soviétiques et comment les nazis avaient-ils anticipé cette arrivée des Soviétiques?
Alors d'abord, il faut rappeler trois chiffres. Le premier chiffre, c'est le nombre des personnes mortes ou assassinées à Auschwitz, plus d'un million, 1 100 000, dont à peu près 1 million de juifs, hommes, femmes, enfants, et une vingtaine de milliers de tziganes, hommes, femmes, enfants. Ce sont les deux seuls groupes qui sont assassinés en famille. Il faut rappeler aussi que, au mois d'août 1944, il y a dans les camps d'Auschwitz 130 000 détenus. C'est leur occupation maximale. Les 17 et 18 janvier 1945, les nazis mettent sur les routes, à pied et ensuite en train, en wagon découvert, 70 000 détenus.
Donc les nazis, bien sûr, anticipent cette arrivée des alliés, Annette Wiewiórka.
Oui, ils anticipent cette arrivée des alliés. Ils veulent garder leur troupeau de concentrationnaires pour servir de main-d'œuvre dans leurs usines, car jusqu'à la fin, certains ont cru à la victoire. Jusqu'à la fin, ils ont voulu se battre. Donc, pour terminer mon petit comptage, il reste 6 à 7 000 détenus dans les camps, dont la dame que l'on a entendue à l'ouverture de l'émission. Et elle dit exactement ce que dit Primo Levi, qui lui aussi était là, c'est-à-dire l'extrême humanité de ces soldats soviétiques, la façon dont ils les ont traités, en quelque sorte en bricolant, puisque rien n'avait été préparé pour ces gens, et le sentiment qu'ils ont eu pour la première fois depuis longtemps, qu'ils n'étaient plus abandonnés. Elle utilise le terme d'abandon, c'est le terme qu'utilise aussi Simone Veil, ces deux femmes ne se connaissent pas, et qu'il y avait de nouveau de l'humanité. Et ça, ça a été le sentiment qu'ont eu ceux qui ont rencontré les soldats soviétiques à Auschwitz. Je dis soviétiques parce que globalement, ils n'étaient pas russes.
Pour mieux comprendre comment ces quelques survivants ont pu ressentir ce 27 janvier, vous citiez à l'instant Simone Veil. Je vous propose d'écouter cette archive. J'avais eu la chance d'enregistrer son témoignage il y a 10 ans pour la Marche du Monde. Et nous pensons fort à elle dans cette commémoration du 27 janvier. Je rappelle qu'elle a été arrêtée à l'âge de 17 ans, mars 44. Elle est déportée avec sa mère, sa sœur et son frère dans le complexe concentrationnaire d'Auschwitz où elle travaille à l'usine Siemens. Mais devant l'arrivée des Soviétiques, vous l'avez rappelé, les nazis font évacuer les camps. Et pour Simone Veil, c'est à Bergen-Belsen que se terminera ce calvaire, un autre camp où Simone survit avec sa sœur, mais où elle voit sa mère mourir du typhus en mars 1945. Simone Veil.
Oui, mais pour nous, le 27 janvier n'a pas été du tout la libération, parce que nous étions effectivement à Auschwitz même, ou plutôt le plus souvent à Birkenau, ou des petits commandos, c'était mon cas, j'étais dans un petit commando à 3-4 kilomètres de Birkenau, là où il y avait les chambres à gaz, et depuis quelques jours déjà, on entendait le canon, on voyait la lueur du front, et on espérait être libéré par l'armée rouge. En fait, le 18 janvier, nous avons été regroupés, et nous sommes partis en fin de journée. On est passé à Birkenau, on était très angoissés parce qu'on s'est demandé si on n'allait pas à Birkenau pour être à notre tour exterminés. Et nous avons été soulagés quand on a vu qu'on ne s'arrêtait pas et on était un peu plus loin, retrouver tout un très grand groupe à Monowitz, qui était un très grand commando où on fabriquait du caoutchouc synthétique. Et nous sommes repartis en marche. Nous avons fait 75 km à pied à peu près dans la nuit, dans la neige. Il faisait moins 28 degrés, un froid horrible. Et nous sommes restés à Gleiwitz là 2 jours et ensuite nous sommes partis dans des wagons ouverts où la neige tombait, un froid, nous n'avions rien pour nous réchauffer. On était entassés dans ces wagons, tellement entassés qu'on avait toujours peur d'être projetés sur le balastre et à ce moment-là, tués. Mais pendant ce temps-là, les malades, et puis certains qui avaient pu se cacher, étaient restés dans le camp d'Auschwitz et ont été, eux, libérés, mais ils n'ont été libérés que le 27 janvier, c'est-à-dire plus d'une semaine après, mais il en restait très peu. Mais pour ce qui me concerne, nous étions 37 femmes dans ce petit commando, mais dans un train où il y avait surtout des hommes, près de 2000 hommes, la moitié sont à peu près sont morts en route. Les hommes sont restés jusqu'à Dora, où on fabriquait les V2, c'était un camp très dur, et nous, nous sommes restés là 2 jours, et puis au bout de 2 jours, nous sommes repartis pour Bergen-Belsen, et c'est donc seulement au mois d'avril que nous serons libérés à Bergen-Belsen.
À nouveau, un long chemin que cette libération. Et c'est important d'insister là-dessus, Simone Veil, parce que ce n'est pas un souvenir du tout de joie.
Ah non, pas du tout. Beaucoup de camps avaient été repliés sur Bergen-Belsen et il y a eu une épidémie de typhus, ce qui fait qu'énormément de gens sont morts à Bergen-Belsen du fait à la fois de la faim, car il n'y avait plus rien à manger, et surtout d'une épidémie de typhus, qui fait que beaucoup de gens sont morts même après la libération par les Anglais, puisque ce sont les Anglais qui nous ont libérés.
Vous-même, Simone Veil, combien de temps, finalement, au bout du compte, avez-vous mis pour retrouver la France ?
Nous avons été libérés, là, c'était, je crois, je ne sais jamais si c'est le 15, vous le disiez, je crois que c'est le 15 avril, parce qu'on ne savait plus du tout les dates. Je suis rentrée en France le 23 mai, après 5 jours de camion, dans des conditions, je veux dire, très mauvaises, très mauvaises. Et là, ça a été un peu une certaine amertume, de voir combien on avait traîné à nous ramener. Je pense qu'en fait, comme il y avait une épidémie de typhus, on ne tenait pas tellement à ce que cette épidémie puisse se répandre en France. On a préféré nous laisser un peu plus longtemps là-bas, mais sans aucun soin pour la plupart. Ce qui fait que vraiment beaucoup de gens sont morts après la libération encore. Enfin, ma mère était morte, elle, du typhus, mais elle était morte au mois de mars. Ma sœur avait le typhus, elle était très très malade. Et c'est un miracle qu'elle ait pu supporter ces jours de camion et survivre ensuite. Rendu compte que mes petits-enfants, certains ne savaient pas grand-chose et qu'il fallait, avant de disparaître, que je leur en parle. Parce que d'aller au camp, c'est très bien, mais ce qui, évidemment, échappe complètement, et c'est tout à fait normal, c'est le cadre. Et le cadre, c'était une odeur pestilentielle, qui était celle des cheminées qui fumaient sans arrêt, un ciel plombé, qui était celui de ces grandes cheminées qui fumaient, la boue partout, même pendant l'été, pas une herbe, bon, les chiens qui aboyaient, les SS qui criaient, les gens en train de mourir dans les fossés et surtout toutes les déportées qui n'étaient plus que des squelettes dans leur tenue de bagnard qui pendouillaient pour qu'on ait l'air de loques. Enfin. Donc pour tout de même en donner l'idée si les gens veulent avoir une représentation.
Simone Veil a été déportée donc à Auschwitz, Birkenau, puis ensuite à Bergen-Belsen. Elle a donc été le témoin de l'arrivée des Juifs hongrois en mai-juin 1944. Pendant ce temps-là, rappelez-vous, les Alliés débarquaient.
Oui. L'histoire des Hongrois est une histoire qui a été très très longtemps occultée. Elle a été occultée par le régime hongrois qui ne voulait pas savoir. Et comme les Juifs qui restaient 100 000 sur environ 700 à 800 000 ne tenaient pas non plus à en parler sous un régime soviétique qui était à son tour antisémite. Mais depuis quelques années, il y a un grand effort de la part des Hongrois pour savoir ce qui s'est passé. Et pour moi, je veux dire qu'il y a vécu à Birkenau, beaucoup de choses, des visions terribles, le souvenir des Hongrois reste la chose la plus effroyable. C'est-à-dire qu'on avait prolongé la rampe qui amenait les trains, jusque-là, ils s'arrêtaient avant l'entrée dans le camp et on faisait un certain trajet à pied. Là, pour simplifier les choses, pour éviter peut-être des mouvements de révolte, en tout cas pour que ce soit beaucoup plus simple le travail d'extermination, la rampe avait été prolongée jusqu'à certaines des chambres à gaz, qui étaient à l'intérieur, même vraiment jouxtait le camp où nous étions. Et moi, je me souviens de la baraque où j'étais, on voyait les trains arriver, on voyait les gens descendre, et on voyait très bien ceux qui entraient dans le camp, quelquefois. Au début, comme il y avait encore de la place dans le camp, il y en a eu un certain nombre, puis petit à petit, il n'y avait plus personne. Et c'est comme ça qu'en 2 mois, exactement 2 mois, mai et juin 44, 400 000 Hongrois ont été des trains à la chambre à gaz directement. Alors un certain nombre après ont survécu parmi les déportés, mais pendant longtemps, probablement il s'est passé pour eux exactement la même chose que pour nous. On ne les a pas entendus, sans doute encore moins, parce que là il y avait une volonté politique de ne pas les entendre. Et maintenant, comme partout d'ailleurs, les nouvelles générations veulent savoir. Et quand je dis les nouvelles générations, ce sont celles qui sont juives ou d'origine juive, mais ce sont aussi les autres qui sont de plus en plus intéressés à connaître l'histoire.
Et vous en savez quelque chose, Annette Viviorka, puisque vous avez écrit ce livre « Auschwitz, expliqué à ma fille »,
oui,
qui est un best-seller mondial.
Oui.
À quoi pensez-vous lorsque vous écoutez, réécoutez, vous connaissez bien l'histoire de Simone Veil, vous connaissez bien Simone Veil, à quoi pensez-vous quand vous écoutez encore son témoignage?
C'est une personne qui, sur la déportation, a toujours trouvé les mots les plus justes. On peut l'écouter, je l'ai écouté très souvent, puisqu'elle a prononcé un certain nombre de grands discours, et puis je l'avais moi-même interviewée en 89-90, donc ça fait maintenant plus d'un quart de siècle. Je pense qu'elle a raison. Je pense que si elle parlait aujourd'hui, peut-être qu'elle exprimerait d'autres types d'inquiétudes, parce que elle a été très préoccupée de la pérennité de la transmission de cette histoire. Elle est en quelque sorte le symbole, parce que je crois qu'elle faisait allusion dans cet entretien à la visite qu'elle a effectuée au moment de cette commémoration du 60e anniversaire de l'ouverture des camps d'Auschwitz, en compagnie de ses enfants et de ses petits-enfants. Et que elle a là raconté en entier, comme on ne fait pas habituellement, ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants, cette histoire. Il y a ce souci que cette histoire soit connue, et c'est un souci qu'elle a eu comme survivante, c'est un souci que j'ai eu comme professeur d'histoire, et j'espère que ce souci perdurera.
Ce qui est frappant dans le récit de Simone Veil, donc, elle insiste bien sur le fait que pour elle, ce n'était pas une libération, ce n'était pas ce sentiment-là qui dominait. Et on entend aussi que nombre de survivants à ce moment-là sont finalement morts dans ce voyage terrible du retour.
Absolument. Divers camps où ont été évacués les survivants des camps d'Auschwitz, c'est différent. Par exemple, à Buchenwald, le rapatriement est mené efficacement et rapidement. Buchenwald est libéré par les Américains le 12 avril 1945, le jour même de la mort de Franklin Roosevelt. Et on peut dire que vers le 20 ou 25 avril, donc 10-15 jours après, tous les déportés de France sont rapatriés. Donc ça a été rapide et efficace. Bergen-Belsen, ça a été atroce. Ça a été un gigantesque mouroir en proie à une épidémie de typhus et une épidémie de dysenterie. Le camp a été mis en quarantaine. Les Hongrois auxiliaires des nazis qui gardaient le camp à l'époque nazie ont continué à garder le camp. Et on a continué à mourir par centaines, par milliers dans les jours qui ont suivi. Et c'est de Bergen-Belsen qu'il y a ces images des bulldozers qui ramassent les cadavres et les poussent dans de gigantesques fosses communes. Et on peut penser que parmi ces corps, il y a celui d'Yvonne Jacob, la mère de Simone Veil, et celui de Margot et Anne Frank, qui, elles aussi, sont décédées en mars. Donc on a un camp couvert de cadavres, et les corps des morts mars, avril, et après la libération par les Britanniques, qui sont comme ça dans des gigantesques fosses communes, avec aucun effort qui est fait, donc pas plus à Bergen d'ailleurs qu'à Ordruf ou à Buchenwald, pour essayer de conserver les noms. C'est une mort dans un anonymat total.
« La libération d'Auschwitz est une émission en partenariat avec le mémorial de la Shoah, avec notre invitée Annette Wiewiórka, auteure de 1945, La découverte aux éditions du Seuil. On se retrouve juste après les infos sur RFI.
La marche du monde.
Plus haut, c'est Nuremberg qui brûle. Les troupes pénètrent dans la ville qui fut autrefois la ville des jouets et dont Hitler avait fait la ville des pantins depuis qu'à Nuremberg se déroulaient les gigantesques parades du nazisme. C'est sur cet autel de pierre qu'Hitler se dressait comme une idole au pied de laquelle tout un peuple accumulait les victimes. Le général Eisenhower pourra en témoigner. Il a visité ces camps où les nazis torturaient et faisaient mourir. Il a entendu les survivants évoquer les traitements qu'on leur faisait subir. Maintenant, la cause est entendue. Le monde entier a compris.
Le monde entier a compris, annonce le speaker des actualités cinématographiques. Mais qu'est-ce que le monde a réellement compris en cette année 1945, année de la libération de l'Europe, année de la découverte des camps nazis?
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et nous retrouvons notre invitée Annette Wiewiórka, directrice émérite au CNRS et spécialiste de la mémoire de la Shoah. 1945, La découverte, c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Seuil, où vous nous expliquez justement la découverte des camps nazis à travers deux regards. Celui d'un photographe français de l'AFP, Eric Schwab, et celui de Meyer Levin, américain et homme de plume. Pourquoi avoir choisi ces deux-là?
Alors, Meyer Levin, je le connaissais, je mets des guillemets, hein, je l'ai jamais rencontré, parce que il avait écrit une autobiographie qui s'appelle In Search, Enquête, où la partie centrale s'appelait Witnesses, les témoins, et il racontait le choc qu'avait été pour lui son entrée dans le premier camp, alors pour l'heure ouvert, il restait plus de survivants, qui est celui d'Ordruf, à quelques kilomètres de Brunwald. Et cet homme, correspondant de guerre, a fait jeep commune, un peu par hasard, avec Eric Schwab, photographe français de l'AFP, dont la mère, juive allemande, s'était remariée avec un Allemand et avait été déportée quelque part. Il ne savait pas où.
Donc il a en plus.
Voilà. Donc il est aussi.
Ce désir, j'imagine, de évidemment.
D'abord, il a sa mère. Une haine des Allemands que n'a pas Meyer Levin, curieusement, et il cherche sa mère.
Alors Ordruf, vous venez de le dire, il faut s'imaginer donc ces deux journalistes dans cette jeep qui arrivent sur ce camp. Non plus, ils savent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ils vont être les premiers. Et ils c'est pour cela que vous les avez choisis, parce qu'ils le disent très très bien. Ils avaient entendu parler, mais là, ils voient. Alors, de quoi sont-ils les témoins et qu'est-ce qui se passe finalement?
Alors, il y a aussi une histoire dans l'histoire, c'est que un de mes amis très proches, qui s'appelle Henri Borland, était détenu, avait suivi le même parcours à peu près que Simone Veil, mais il avait abouti un peu plus tôt dans le creusement des tunnels d'Ordruf, parce qu'il n'y a pas eu seulement les tunnels de Dora, dont il était question dans les témoignages. Et il s'était évadé au moment d'évacuation du camp. À un moment donné, il a rencontré donc le fils de Meyer Levin chez moi. Et j'ai eu cette idée, qui est tout à fait possible, que c'était Henri Borland qui avait indiqué Ordruf à Levin et Schwab. Ce qui est stupéfiant, c'est que Meyer Levin, donc américain, est obsédé par la question juive depuis toujours. Ce qui n'est pas du tout l'habitude des juifs américains de sa génération. Donc il a été un observateur extrêmement attentif de toutes les nouvelles qui ont pu parvenir d'Europe jusqu'aux États-Unis. Pourtant, il a ce choc, la découverte, le moment où il voit. Il écrit que finalement on savait, mais qu'on ne savait pas vraiment, et que c'est en entrant dans ce qu'il appelle le cœur maléfique, « the vicious heart », le cœur maléfique renvoie à un conte racidique où le cœur est un vrai cœur. Le cœur, c'est le mal, c'est Satan, sous la forme d'un cœur humain qui a été réenglouti dans la terre. Et pour lui, les camps c'est le mal, c'est ce qui fait le mal. Et c'est là qu'il a l'impression d'être, quand il est témoin des cadavres éparpillés à l'entrée d'Ordruf et des piles qui sont en train d'être brûlées pour faire disparaître les corps à d'autres endroits du camp.
Alors vous expliquez, Annette Wiewiórka, que ce camp devient donc là tout de suite le camp de la preuve en quelque sorte. Les cadavres sont laissés intacts aussi parce que les généraux Patton, Bradley et Eisenhower, il faut qu'ils les voient de leurs voilà. yeux. Et alors ils vont décider, ces généraux, qu'il va falloir les photographier et les filmer. Pour quelles raisons à l'époque ?
Vraiment. Alors on a vraiment de la part du commandement de l'armée américaine, ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération de com. On amène Eisenhower, Patton, Bradley à Ordruf. Leur émotion est considérable. Un détenu, dont on connaît le nom maintenant, Ignaz Fellman, leur montre tous les instruments de torture. C'est ce que dit le journaliste que l'on entend parlant à la radio à partir de la ville de Nuremberg. Donc il parle de ce que Ignaz Fellman a montré aux généraux. Et je crois que la raison, elle est liée aussi à l'Amérique, aux États-Unis. C'est que les États-Unis ont toujours eu une oscillation entre l'isolationnisme et l'interventionnisme. Et en fin de compte, en voyant les camps, les États-Unis sont du côté du bien qui se bat contre le mal. Et aux yeux de l'opinion publique américaine, aux yeux de l'armée américaine, ça justifie cette croisade qui a été très meurtrière, parce que les 9 derniers mois de la guerre, c'est-à-dire les mois qui séparent le débarquement américain de la fin de la guerre, hein, ce sont des mois extraordinairement meurtriers, beaucoup plus meurtriers que n'a été le début de la guerre.
La marche du monde spéciale 27 janvier, journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, une émission en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Écoutez Jacques Frege, son directeur, il nous dit pourquoi il a souhaité filmer une fois encore les derniers témoins. La série s'intitule « Ma libération ».
Ma libération, c'est simplement pouvoir individualiser le retour à travers des itinéraires totalement différents. Des gens qui sont rentrés facilement, des gens qui sont rentrés difficilement, des gens qui ont été malades, qui ont dû être soignés dans l'immédiate après-guerre, des gens qui ont retrouvé leur famille, des gens qui se sont retrouvés tout seuls, seuls au monde. Et donc expliquer un peu la difficulté du retour, que la fin de la guerre, c'est pas forcément ces images de liesse que l'on connaît, des Parisiens qui célèbrent à juste titre la libération de la France. Finalement, pour certains, c'est la fin d'un cauchemar, mais j'aurais tendance à dire que c'est pour certains le début d'un autre. C'est-à-dire que les gens qui étaient à Auschwitz sont pas sortis d'Auschwitz. Ils sont toujours pas sortis d'Auschwitz aujourd'hui, 70 ans après. C'est que ce sujet continue de nous hanter quand on réfléchit sur la barbarie qui a été perpétrée à Auschwitz. Mais il continue de hanter également les survivants et les nuits des survivants. Et donc, 70 ans après la fin de la guerre et la fin de l'univers concentrationnaire, on a souhaité recueillir une fois encore leurs paroles, parce que les rangs des témoins s'éclaircissent chaque année et qu'on a conscience que c'est sans doute les dernières années que l'on peut profiter de leurs témoignages et de leurs paroles.
Parmi ces derniers témoins, j'ai donc rencontré Jacques Stonlow. Il est issu d'une famille juive polonaise. Jacques échappe au rafle. Jeune scout israélite, il est même caché par des scouts français. À la libération, il répond présent à l'appel des rescapés de son groupe de scouts israélites pour aller accueillir les déportés à l'hôtel Lutetia à Paris.
Bah, du peu que je peux me souvenir, il y avait des barrières devant et puis des files d'attente. Et puis des listes qu'il y avait avec des photos. Ah ben c'était épouvantable, hein. Épouvantable, de tous âges, donc ça partait des tout petits jusqu'à personnes âgées. Alors, il y avait peu de petits, il y avait peu de personnes âgées, évidemment, avec les pyjamas à rayures, des mines incroyables. C'était une espèce d'extraterrestre, c'était quelque chose de vraiment d'irréalisable quelque part, hein. Alors j'ai une première réaction qui était l'horreur vraiment, et je me demandais si j'allais pouvoir faire face à ça. Et puis la deuxième réaction qui était, faut être plus fort que les réactions que l'on a, et puis accueillir. Alors après, l'hôtel du Tessia s'est complètement organisé pour la réception de tous ces rapatriés. Et un point qui était très très important, c'était comment mettre en place un dispositif médical pour recevoir ces rapatriés qui étaient vraiment en très mauvais état.
Alors vous, Jacques, vous vous occupez plus particulièrement des enfants.
Mon âge.
De votre âge.
Uniquement les enfants de mon âge, 15, 16, 17, avec mes camarades qui étaient là. Alors, j'ai très vite ressenti qu'il fallait d'abord que de leur côté, ils réalisent qu'ils sont libérés. Et oui, c'est aussi curieux que ça puisse paraître. Ce qui était généralisé un peu d'une certaine manière, c'était une impossibilité de leur part de se rendre compte qu'ils étaient libérés, réellement. Ça, c'était le fait dominant. On avait des tenues de scouts, nous, d'éclaireurs, kaki, avec le foulard, avec le béret, tout ça. Et les premières actions que j'ai pu voir chez ces jeunes qui revenaient, c'était la frayeur. Et donc, on a enlevé nos tenues de scouts, et puis on s'est mis en civil, quoi. Hop, ça s'est calmé, là. Et puis donc, après, c'était des soins. Il fallait vraiment apporter beaucoup d'attention à ça. Ceux qui étaient trop affectés sur le plan psychologique, je les accompagnais à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement, rue Saint-Antoine, où il y avait un service psychiatrique prêt à les recevoir.
Donc évidemment, vous avez vu plein de gens venir au Lutetia, errer, essayer de reconnaître quelqu'un.
Absolument.
De quelle scène vous souvenez-vous ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ?
C'était beaucoup de maladresse, et l'enfant était plus effrayé qu'autre chose, quoi. C'est ça qu'il fallait vraiment faire avec beaucoup de douceur et beaucoup d'attention, hein, ce retour de ces enfants, quoi. C'est...
Vous avez assisté à des retrouvailles ?
Oui, alors vraiment très émouvant, vraiment poignant, mais avec tellement de force d'effusion d'un côté, et d'un autre côté, ne pouvant pas réaliser, avoir retrouvé des familles, que s'il y avait un grand contraste qui était là, c'était vraiment très très fort, hein. Tous ces gens qui étaient là, vous en avez qui sont venus pendant des semaines, hein. Et puis après, bon, qui venaient plus, parce que la liste était rayée.
Annette Viviorca, après la découverte des camps par les Alliés, c'est la découverte des rapatriés, c'est le terme employé par Jacques Stanlot, on va y revenir, par les Parisiens au Lutetia. Et là aussi, c'est un choc extraordinaire.
Oui, le ministère des prisonniers déportés réfugiés, le ministère des PDR, qui était dirigé par un grand résistant, Henri Freinet, avait fait des tas de plans de rapatriement pour ce qu'on appelait alors d'un terme générique, les absents. Les absents, c'était 1 million de prisonniers de guerre, c'était 750 000 requis du STO, et c'était, disons, 50 000 déportés. L'immense majorité d'entre eux, déportés, résistants ou otages, qui avaient survécu, et de façon très minoritaire, quelques milliers, peut-être 3 500, déportés juifs. Donc on voit tout de suite que les déportés sont très minoritaires. Et c'est en voyant les premiers rapatriés qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas les accueillir avec tout le monde, que la gare d'Orsay, par exemple, n'était pas un lieu adéquat, et qu'il fallait un endroit particulier. Et on a réquisitionné ce grand palace qui est l'hôtel Lutetia, qui avait été le siège des services secrets allemands de l'Abwehr pendant la guerre, comme un lieu particulier pour ces gens.
Est-ce que cela veut dire, Anna Viviorca, que de la même façon que les Alliés n'allaient pas libérer les Juifs des camps de concentration et d'extermination, après la libération, après la guerre, de la même façon, quand on accueille les survivants, il n'y a pas de spécificité de l'accueil de ceux
alors, il n'y a
que
pas
les nazis
de...
voulaient exterminer.
Il n'y a pas de spécificité prévue, quoique il y a immédiatement au sein du ministère un service dit du fichier qui s'occupe des déportés israélites, comme on disait à l'époque. Donc il y a quand même cette spécificité qui est prise en ligne de compte, plus une spécificité qui est prise en ligne de compte par un certain nombre d'organisations juives. Mais on n'a pas pensé que l'état de ceux qui avaient survécu aux camps de concentration juifs ou non juifs nécessiterait des soins particuliers. Et c'est Agnès Bidault, la sœur de Georges Bidault, et Sabine Zadkin qui vont s'occuper de faire de ce Lutetia ce lieu où l'on s'occupe du mieux que l'on peut de ces survivants et où on s'occupe de les soigner, de leur donner à manger, de leur donner un lieu, soit le temps qu'ils regagnent leur chez eux quand ils ont encore un chez eux dans la région parisienne, ou qu'on leur donne un billet de transport pour qu'ils puissent en train retourner dans leur province, parce que tous les déportés ne sont pas des Parisiens.
Annette Viviorca, Simone Veil, que l'on a entendu au début de cette émission parler du silence, parler de la difficulté à dire, mais aussi à faire entendre ce qu'elle avait pu vivre, elle et d'autres, en tant que juive, donc avec ce génocide des juifs perpétré par les nazis. Vous décrivez dans votre livre que les deux journalistes que vous avez suivis à travers les regards desquels nous découvrons nous aussi ces camps, puisque vous nous remettez totalement dans l'atmosphère de l'époque, participent à une grande exposition à Paris.
Absolument.
Et là, c'est pareil, Auschwitz ne figure pas.
Absolument. Je crois qu'il faut aussi garder à l'esprit le décalage dans le temps entre la libération de la France et le retour. Paris est libéré, comme chacun le sait, en août 1944, et le rapatriement a lieu entre, disons, avril, mai, juin 1945. On n'est déjà plus dans la liesse depuis très longtemps, et les problèmes quotidiens sont très présents. Les Juifs survivants sont très minoritaires, et aucune des puissances alliées, nulle part, ne marque la spécificité des Juifs. Le premier sujet qui ouvre l'émission, c'est un sujet qui touche au rapatriement des déportés et où, pratiquement textuellement, le journaliste qui couvre cet événement dit « les camps, c'était tous pareils, il y avait différence de degré, c'était plus ou moins dur, mais pas de différence de nature. » Or, aujourd'hui, on fait une distinction entre les centres de mise à mort, qui sont en fait des lieux construits uniquement pour assassiner. C'est le cas d'une partie des camps d'Auschwitz, d'une partie de Birkenau, et les camps de concentration. Mais au moment de la libération, il faut bien insister sur ce brouillage qui fait que, par exemple, à Ohrdruf, 6 survivants sur 10 sont des juifs, majoritairement, et là, on voit ce que racontait aussi Simone Veil, majoritairement des juifs déportés de Hongrie, dernière grande communauté juive intacte, et que ça fait une main-d'œuvre en relativement bonne santé pour les usines de guerre allemandes. Donc, on a ce brouillage des derniers temps qui fait que tout le monde est rapatrié à partir des mêmes camps, puisque Auschwitz, c'est une archi-minorité.
Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ces quelques survivants, et Simone Veil consacrera beaucoup de temps dans sa vie à témoigner, ces témoins sont-ils finalement partie prenante de la preuve, Annette Viviorca?
Écoutez, c'est très compliqué. Si la preuve, c'est de réussir à faire comprendre qu'il s'est passé ces choses-là, oui. Ils sont partis de la preuve aussi dans les procès. Le premier procès qui est fait devant la justice militaire britannique, des gardiens de Bergen-Belsen, des gardiens et des gardiennes. Il y a trois jeunes femmes qui sont condamnées à mort et pendues. Donc ces gardiens sont ceux d'Auschwitz-Birkenau qui ont été, comme les détenus, transférés à Bergen-Belsen. Les preuves, ce sont bien évidemment les témoignages dans ces procès, mais ce sont aussi les preuves écrite. Et très vite, la preuve des crimes nazis a été établie. Et il y a eu un très très grand nombre de procès faits selon les justices des zones d'occupation. Les soviétiques ont fait un procès, celui qui est le plus célèbre et qui a été un des tout premiers, celui de Kharkov. Les britanniques ont fait le procès de Bergen-Belsen. Les américains ont fait, dans le camp de Dachau, transformé en cours un procès de Buchenwald. Donc il y a eu des procès avant le grand procès de Nuremberg et après. Donc juridiquement, effectivement, un certain nombre de criminels ont été jugés. Mais je crois que le témoignage, il dépasse la preuve. Disons que pour écrire l'histoire, on n'a pas forcément besoin de témoignages. Quoique les dépêches d'agence de Meyer-Levin ou les photos de Schwab, ce sont des témoignages.
Et justement, en parlant de vos deux photographes que vous avez choisis pour montrer comment, à travers leurs yeux, on a à ce moment-là découvert Auschwitz et donc découvert la solution finale, découvert l'extermination des Juifs d'Europe, dont on avait bien sûr des éléments de connaissance, mais qu'on n'avait pas encore vu. Vous expliquez combien Meyer-Levin a consacré toute sa vie à médiatiser cette histoire.
Il en est devenu obsédé. Meyer-Levin était déjà obsédé avant, puisqu'il cherchait les restes des communautés juives. Et il a envoyé des dizaines, des centaines de dépêches pour les deux agences de presse, qui étaient, pour aller vite, des agences juives, qu'il employait. Il n'y a qu'une infime minorité de ces dépêches qui ont été publiées. Et Meyer-Levin fait partie de ceux qui ont immédiatement saisi, parce qu'ils la cherchaient, la spécificité du sort des Juifs et la tragédie particulière des Juifs des pays à l'est de l'Europe qui avaient survécu, une si faible minorité qui n'avait pas où aller. Ces dépêches permettent... c'est un journaliste donc qui raconte aussi des histoires. Par exemple, il raconte l'histoire d'un des enfants de 4 ans. Il y a eu à peu près 900 enfants qui ont été rassemblés à Buchenwald, qu'on a appelé les enfants de Buchenwald. 85% étaient des adolescents comme Elie Wiesel, avec 15-16 ans. Mais il y avait un tout petit nombre de tout petits, donc Joseph Schleifstein, qui a été protégé par son père et qui a survécu. Et ces histoires-là, il nous les raconte. Il raconte aussi toutes les discussions entre les Juifs tchèques, hongrois, polonais, à Buchenwald, les adultes, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut revenir dans son pays, immigrer en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud? Est-ce qu'il faut gagner la Palestine, qui est à l'époque un territoire sous mandat? Donc il nous restitue tout ça. Et on peut pas dire que ça intéresse énormément à l'époque. Mais ce sont aussi des témoignages. Des témoignages de ceux qui ont libéré les camps et recueilli des témoignages tout de suite. On a quelques témoignages radio, témoignages écrits que sont les dépêches d'agence, aux photos, aux films. Et il faut rappeler dans ces jours qui suivent l'assassinat de journalistes que des correspondants de guerre donnent leur vie.
Merci Annette Viviorca, merci pour cet hommage. Je rappelle que votre livre 1945, La Découverte, est aux éditions du Seuil. Et je vous propose de terminer cette émission en laissant la parole une dernière fois à Simone Veil. Pour sortir de la violence, elle propose le dialogue et la réconciliation, un discours à méditer.
Je crois que dans l'histoire, la Shoah, qui a été un événement particulièrement dramatique par sa volonté d'extermination totale et les moyens scientifiques, on peut dire, avec les chambres à gaz et l'organisation, les trains qui arrivaient, enfin une organisation qui, pour les nazis, était prioritaire à celle de l'effort de guerre, donc priorité à l'extermination. Mais je dirais que d'une façon générale, il y a eu d'autres grands drames pour des pays, et que chaque fois qu'on occulte, ça empêche à la fois la réconciliation, mais aussi la prise de conscience des responsabilités. Et je crois que c'est tout à fait essentiel, quelles que soient les responsabilités de part et d'autre, de les reconnaître et d'assumer ces responsabilités. On parle de la responsabilité française, ce qui est tout à fait normal, mais il ne faut pas oublier que en arrière de ça, il y a une responsabilité idéologique très forte du nazisme, et que au fond, au-delà des pays, ce sont des idéologies qu'il faut vraiment combattre. C'est l'antisémitisme en tant que tel, mais ça peut concerner aussi bien une quelconque ethnie, une quelconque religion. On l'a vu ça, hélas depuis la guerre, avec le Cambodge, où l'idéologie de haine, elle était dirigée contre une certaine élite intellectuelle, une certaine culture. On l'a vu au Rwanda à l'encontre des Tutsis. On l'avait vu avant avec les Arméniens. Je crois qu'il est fondamental que ces génocides ne soient pas occultés pour montrer jusqu'où peut amener la haine, les discriminations. Alors ça commence très doucement en général, par de simples discriminations pour des postes, des fonctions, la carte d'identité, des choses comme ça. Et puis de montée en montée, on convainc la population qu'il faut s'en débarrasser. S'en débarrasser, c'est d'abord dans des camps simplement, et puis ensuite c'est de tuer. Je crois que ce qu'il faut, c'est regarder vers l'avenir, et que dans l'avenir, nous puissions vivre ensemble en disant que nous avons une Europe en commun, et en commun, lutter pour qu'on sache, mais aussi lutter pour des valeurs. Ça ne suffit pas de connaître le passé, il faut aussi avoir des valeurs qui permettent que ça ne recommence pas. Et c'est ce que j'attends justement de notre avenir commun.
La libération d'Auschwitz, c'était une marche du monde réalisée par Sophie Janin et Cécile Pompeani avec la complicité de Théa Olivier. Retrouvez tout le programme des débats et des rencontres autour de la libération et du retour des camps proposé par le Mémorial de la Shoah sur la page Facebook de l'émission. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos messages toujours plus nombreux en cette année 2015 que je vous souhaite créative et tolérante. N'oubliez pas de podcaster, cette émission c'est la vôtre.
Appelez-nous, exprimez-vous.